Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous allez écouter 3 documents sonores. Vous avez une minute pour lire les consignes. Document numéro 1.
À la Knesset, le Parlement israélien, jupe et robe trop courtes ne sont pas bien vues.
Ces derniers jours, Alexis, plusieurs employées femmes ont été bloquées ou retardées au contrôle de sécurité pour cause de vêtements inappropriés. Et cette nouvelle réglementation a donné lieu à des scènes plutôt inhabituelles ce mercredi matin dans cette enceinte parlementaire. À Jérusalem pour RFI, la correspondance de Guilhem Delteil.
Elles étaient tout d'abord 3, puis une dizaine de femmes assistantes parlementaires ou collaboratrices de députés retenues ce mercredi matin à l'entrée de la Knesset, car selon le nouveau code vestimentaire, les jupes et robes trop courtes ne sont plus admises. Mais le texte ne précise pas la longueur requise. Ces femmes, habituées des lieux, affirment que les vêtements portés aujourd'hui étaient les mêmes que d'habitude. Mais aux yeux des agents de sécurité, ils ne correspondaient pas aux nouveaux critères. Ces cas ne sont pas isolés. Ces derniers jours, d'autres femmes ont été ainsi retenues à l'entrée du bâtiment. L'une d'entre elles a été contrainte de retourner chez elle, se changer avant de pouvoir gagner son bureau. À l'appel d'un syndicat, plusieurs dizaines de femmes se sont donc présentées ce mercredi en portant jupes et robes. Deux députés hommes leur ont également apporté leur soutien, l'un en revêtant lui aussi une jupe, l'autre en retirant sa chemise et lançant aux gardes « Si je peux entrer comme ça, elles peuvent entrer telles qu'elles sont habillées ». Une provocation organisée, a regretté la direction de la Knesset. Guilhem Delteil, Jérusalem, RFI.
Document numéro 2.
Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qui sont les femmes employées par les services secrets français? Combien sont-elles? Que font-elles? Leur sexe a-t-il une importance? Bonjour Dalila Kerchouche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez « Espionne, double vie sous haute tension ». Vous avez enquêté dans un contexte marqué par les attentats, bien sûr, dans différents services, à la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, à la Direction du renseignement et des enquêtes douanières, auprès du renseignement militaire, auprès des renseignements généraux. Vous avez rencontré des femmes de toutes les générations, de toutes origines sociales, en blouson de cuir, en talons aiguilles ou en uniforme militaire, mais en tout cas toujours avec des convictions fortes. Vous allez nous raconter pourquoi et comment elles ont atterri dans ces métiers de l'ombre. Pour certaines d'entre elles, même leurs époux ne sont pas autorisés à savoir où elles partent en mission. Mais on va aussi découvrir que la réalité et le quotidien de ces femmes se passent aussi beaucoup derrière des écrans d'ordinateur, dans des bureaux.
Document numéro 3.
Donc Stéphanie Jiquel, à ma gauche, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate et aventurière, je crois que maintenant on peut coller ce qualificatif aventurière, hein, puisque vous avez quand même eu un exploit en Antarctique.
Oui, j'ai traversé l'Antarctique à ski sans voile de traction, comme vous le disiez, ça veut dire sans l'aide du vent. J'avais vraiment fait ce choix de ne pas utiliser de voile pour faire corps avec le continent antarctique. Je rêvais en fait de découvrir ce continent et les livres ne me suffisaient plus. J'avais vraiment besoin de me confronter à lui et d'y aller. Donc j'ai eu cette idée folle il y a 6 ans maintenant.
Et vous l'avez réalisé
en 2014-2015.
Vous n'étiez pas seule, vous étiez avec votre mari. Donc, vous allez nous raconter cette aventure. Il y a un livre aussi, hein, Across the Antarctica, et un film également, un film assez court, et une association, puisqu'aujourd'hui, vous allez porter cette voix de cette expérience à travers l'association Runners to the Pole. Sophie de Courtivron, à ma droite, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi de l'aventurière en vous, hein, même si vous êtes journaliste au départ, économique, freelance, mais pendant vos vacances, vous ne restez pas tranquille, vous avez ramé sur le Zambèze, et vous avez traversé le Caucase, par exemple. C'est quoi ce besoin d'utiliser ces vacances avec des aventures un peu extrêmes?
Alors, ce n'est pas forcément des vacances, hein. C'est des temps que je prends quand j'ai envie, quand j'en ressens le besoin, justement, quand j'en ai peut-être un peu marre de la routine, entre guillemets, parisienne.
Document numéro 1, deuxième écoute.
À la Knesset, le Parlement israélien, jupes et robes trop courtes ne sont pas bien vues.
Ces derniers jours, Alexis, plusieurs employés femmes ont été bloqués ou retardés au contrôle de sécurité pour cause de vêtements inappropriés. Et cette nouvelle réglementation a donné lieu à des scènes plutôt inhabituelles ce mercredi matin dans cette enceinte parlementaire. À Jérusalem pour RFI, la correspondance de Guilhem Delteil.
Elles étaient tout d'abord trois, puis une dizaine de femmes assistantes parlementaires ou collaboratrices de députés retenues ce mercredi matin à l'entrée de la Knesset. Car selon le nouveau code vestimentaire, les jupes et robes trop courtes ne sont plus admises. Mais le texte ne précise pas la longueur requise. Ces femmes, habituées des lieux, affirment que les vêtements portés aujourd'hui étaient les mêmes que d'habitude. Mais aux yeux des agents de sécurité, ils ne correspondaient pas aux nouveaux critères. Ces cas ne sont pas isolés. Ces derniers jours, d'autres femmes ont été ainsi retenues à l'entrée du bâtiment. L'une d'entre elles a été contrainte de retourner chez elle, se changer avant de pouvoir gagner son bureau. À l'appel d'un syndicat, plusieurs dizaines de femmes se sont donc présentées ce mercredi en portant jupes et robes. Deux députés hommes leur ont également apporté leur soutien, l'un en revêtant lui aussi une jupe, l'autre en retirant sa chemise et lançant aux gardes « Si je peux entrer comme ça, elles peuvent entrer telles qu'elles sont habillées ». Une provocation organisée, a regretté la direction de la Knesset. Guilhem Delteil, Jérusalem, RFI.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qui sont les femmes employées par les services secrets français? Combien sont-elles? Que font-elles? Leur sexe a-t-il une importance? Bonjour Dalila Kerchouche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez « Espionne, double vie sous haute tension ». Vous avez enquêté dans un contexte marqué par les attentats, bien sûr, dans différents services, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, à la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières, auprès du Renseignement Militaire, auprès des Renseignements Généraux. Vous avez rencontré des femmes de toutes les générations, de toutes origines sociales, en blouson de cuir, en talons aiguilles ou en uniforme militaire, mais en tout cas toujours avec des convictions fortes. Vous allez nous raconter pourquoi et comment elles ont atterri dans ces métiers de l'ombre. Pour certaines d'entre elles, même leurs époux ne sont pas autorisés à savoir où elles partent en mission. Mais on va aussi découvrir que la réalité et le quotidien de ces femmes se passent aussi beaucoup derrière des écrans d'ordinateur, dans des bureaux.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Donc Stéphanie Jiquel, à ma gauche, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate et aventurière, je crois que maintenant on peut coller ce qualificatif aventurière hein, puisque vous avez quand même eu un sacré exploit en Antarctique.
Oui, j'ai traversé l'Antarctique à ski sans voile de traction, comme vous le disiez, ça veut dire sans l'aide du vent. J'avais vraiment fait ce choix de ne pas utiliser de voile pour faire corps avec le continent antarctique. Je rêvais en fait de découvrir ce continent et les livres ne me suffisaient plus. J'avais vraiment besoin de me confronter à lui et d'y aller. Donc j'ai eu cette idée folle il y a 6 ans maintenant.
Et vous l'avez réalisé,
voilà, je l'ai réalisé en 2014-2015.
3 ans. Vous n'étiez pas seule, vous étiez avec votre mari. Donc vous allez nous raconter cette aventure. Il y a un livre aussi, hein, Across the Antarctica, et un film également, un film assez court, et une association, puisqu'aujourd'hui vous allez porter cette voix, cette expérience à travers l'association Runners to the Pole. Sophie de Courtivron, à ma droite, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi de l'aventurière en vous, hein, même si vous êtes journaliste au départ, économique, freelance, mais pendant vos vacances, vous ne restez pas tranquille, vous avez ramé sur le Zambèze et vous avez traversé le Caucase, par exemple. C'est quoi ce besoin d'utiliser ces vacances avec des aventures un peu extrêmes?
Alors, ce n'est pas forcément des vacances, hein. C'est des temps que je prends quand j'ai envie, quand j'en ressens le besoin, justement, quand j'en ai peut-être un peu marre de la routine, entre guillemets, parisienne.
Sujet numéro 2. Vous avez 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Au Japon et le Japon, c'est le pays des robots, Jérôme. Des robots qui commencent à envahir les commerces. Et à Tokyo, vous avez vu le premier robot qui prépare des sushis et des pizzas.
C'est un robot cuisinier, en effet, avec 2 grands bras articulés. Alors, un robot fixe, hein. Et il s'appelle Du Haro. Il est signé Kawasaki. Et il est capable de préparer des sushis et des makis. Il pose soigneusement les tranches de saumon cru sur les boules de riz. C'est impressionnant. Des sushis tout à fait honorables à l'arrivée. Et tenez-vous bien, il peut donc aussi faire des pizzas, puisque c'est le même principe, hein, finalement. Les sushis et les pizzas, on empile des ingrédients. Le tout, c'est qu'on espère qu'il ne mélangera pas les deux en cas de bug. Selon Kawasaki, il travaille aussi vite qu'un cuisinier humain. Ça, on en doute un petit peu quand on le regarde travailler, mais c'est vrai qu'il est très précis.
Et il est réellement en service, ce robot, Jérôme ?
Alors pas encore, enfin presque, parce que ce dont je vous parle, en réalité, c'est une démonstration dans un showroom qui vient d'ouvrir à Tokyo. Donc ce robot n'est pas encore en service dans des restaurants, mais ça ne saurait tarder, nous dit-on. Il est prêt, il suffit de le programmer en fonction de ce qu'on veut lui faire faire. D'ailleurs, il ne fait pas que ça, il sait également dessiner et faire le portrait des visiteurs grâce à deux stylos en même temps. Il peut aussi jouer au domino, bref, il fait plein de choses. C'est un dérivé d'un robot industriel utilisé dans des usines et il est disponible à la vente, 2 800 000 yens, soit un peu plus de 20 000 euros, c'est pas très cher en fait. Donc si des restaurateurs veulent l'acheter, c'est possible. Et à Tokyo, on trouve de plus en plus de robots. Alors même ceux qui ne font pas les sushis, ils vous accueillent dans les magasins de plus en plus souvent.
Alors les robots, ils semblent assez bien accueillis au Japon, Jérôme, mais c'est pas forcément le cas en France.
C'est vrai qu'en France, on a peur que les robots nous prennent nos emplois. Eh bien, au Japon, au contraire, on compte sur les robots pour remplacer les employés qui ne seront plus assez nombreux dans le futur à cause, on le sait, du vieillissement de la population japonaise. En 2030, un tiers des Japonais auront plus de 65 ans. Ce sont donc les robots qui prépareront des sushis ou qui feront des travaux de manutention quand il n'y aura plus assez de travailleurs valides pour faire ça. Il y a aussi tous ces projets de robots pour venir en aide aux personnes âgées à domicile ou même pour s'occuper des jeunes enfants.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Au Japon et le Japon, c'est le pays des robots, Jérôme. Des robots qui commencent à envahir les commerces. Et à Tokyo, vous avez vu le premier robot qui prépare des sushis et des pizzas.
C'est un robot cuisinier, en effet, avec deux grands bras articulés. Alors, un robot fixe, hein. Et il s'appelle Du Haro. Il est signé Kawasaki. Et il est capable de préparer des sushis et des makis. Il pose soigneusement les tranches de saumon cru sur les boules de riz. C'est impressionnant. Des sushis tout à fait honorables à l'arrivée. Et tenez-vous bien, il peut donc aussi faire des pizzas, puisque c'est le même principe, hein, finalement. Les sushis et les pizzas, on empile des ingrédients. Le tout, c'est qu'on espère qu'il ne mélangera pas les deux en cas de bug. Selon Kawasaki, il travaille aussi vite qu'un cuisinier humain. Ça, on en doute un petit peu quand on le regarde travailler, mais c'est vrai qu'il est très précis.
Et il est réellement en service, ce robot, Jérôme ?
Alors pas encore, enfin presque, parce que ce dont je vous parle, en réalité, c'est une démonstration dans un showroom qui vient d'ouvrir à Tokyo. Donc ce robot n'est pas encore en service dans des restaurants, mais ça ne saurait tarder, nous dit-on. Il est prêt, il suffit de le programmer en fonction de ce qu'on veut lui faire faire. D'ailleurs, il ne fait pas que ça, il sait également dessiner et faire le portrait des visiteurs grâce à deux stylos en même temps. Il peut aussi jouer au domino, bref, il fait plein de choses. C'est un dérivé d'un robot industriel utilisé dans des usines et il est disponible à la vente, 2 800 000 yens, soit un peu plus de 20 000 euros, c'est pas très cher en fait. Donc si des restaurateurs veulent l'acheter, c'est possible. Et à Tokyo, on trouve de plus en plus de robots. Alors même ceux qui ne font pas les sushis, ils vous accueillent dans les magasins de plus en plus souvent.
Alors les robots, ils semblent assez bien accueillis au Japon, Jérôme, mais c'est pas forcément le cas en France.
C'est vrai qu'en France, on a peur que les robots nous prennent nos emplois. Eh bien, au Japon, au contraire, on compte sur les robots pour remplacer les employés qui ne seront plus assez nombreux dans le futur à cause, on le sait, du vieillissement de la population japonaise. En 2030, un tiers des Japonais auront plus de 65 ans. Ce sont donc les robots qui prépareront des sushis ou qui feront des travaux de manutention quand il n'y aura plus assez de travailleurs valides pour faire ça. Il y a aussi tous ces projets de robots pour venir en aide aux personnes âgées à domicile ou même pour s'occuper des jeunes enfants.
Sujet numéro 3. Vous avez 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet numéro 3, document sonore, première écoute.
France Info.
Dominique Lorieux, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
C'est mon époque, comme tous les mercredis et en pleine semaine du développement durable, vous allez nous parler de ces lieux qui nous permettent de faire réparer nos appareils, de leur donner une seconde vie sans bourse déliée.
Oui, ils ont le vent en poupe. Ils, ce sont les Repair Cafés, littéralement des cafés de la réparation. Mmh. Ils sont apparus en 2010 aux Pays-Bas, puis se sont développés dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, la France en compte 90. Les départements les plus en pointe dans ce domaine sont les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Maine-et-Loire, avec 8 Repair Cafés chacun.
Le concept, c'est quoi ?
Il s'agit d'une mise en relation avec des gens compétents dans un domaine bien particulier. Cela peut être l'électricité, l'électronique, la réparation de vélos, la couture, tout est possible en fait. À partir de là, ces bénévoles vont nous aider à réparer notre matériel en panne. C'est gratuit, mais en contrepartie, on nous demande de participer, de mettre la main à la pâte en quelque sorte.
Et ça marche.
C'est plein à chaque fois. Il faut dire qu'ils ne sont pas ouverts tous les jours. Ça peut se dérouler un samedi tous les 15 jours, par exemple. Mmh. Alors, pour savoir les dates des prochains Repair Café près de chez vous, il suffit d'aller sur le site repaircafé.org. Une fois que vous avez la date, le lieu et les horaires, eh bien, tout simplement, vous venez avec l'objet en question, un seul par personne.
Faut pas abuser.
Voilà, vous prenez un numéro à l'accueil, puis vous attendez d'être appelé.
Le résultat ?
Eh bien, plus de la moitié des objets repartent en état de marche. Ouais. Alors, si dans certains cas, la réparation peut se faire sans problème sur place le jour même, on pense à une soudure, par exemple, pour d'autres, il va falloir avoir recours à des pièces détachées. Et là, eh bien, il faudra les acheter et revenir avec pour que l'appareil puisse être réparé.
Qu'est-ce qui se passe, justement, si on ne peut pas réparer ?
Eh bien, vous n'avez pas tout perdu. Outre le café et les pâtisseries que vous pourrez prendre sur
place... Ce n'est pas le voyage pour rien.
Non, dans une ambiance conviviale. Il arrive aussi que l'on vous indique précisément d'où vient le problème de votre appareil, c'est important. Et on peut vous dire aussi si ça vaut le coup d'engager la réparation par le service après-vente de la marque.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ces Repair Café, Dominique ?
De simples particuliers qui veulent prendre part à la lutte contre le gaspillage et le tout jetable. Là encore, c'est très simple pour fonder son Repair Café. Le mode d'emploi est sur le site repaircafé.org.
Sujet numéro 3, document sonore, deuxième écoute.
France Info.
Dominique Loriot, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
C'est mon époque, comme tous les mercredis et en pleine semaine du développement durable, vous allez nous parler de ces lieux qui nous permettent de faire réparer nos appareils, de leur donner une seconde vie sans bourse déliée.
Oui, ils ont le vent en poupe, ce sont les Repair Cafés, littéralement des cafés de la réparation. Mmh. Ils sont apparus en 2010 aux Pays-Bas, puis se sont développés dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, la France en compte 90. Les départements les plus en pointe dans ce domaine sont les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Maine-et-Loire, avec 8 Repair Cafés chacun.
Le concept, c'est quoi ?
Il s'agit d'une mise en relation avec des gens compétents dans un domaine bien particulier. Cela peut être l'électricité, l'électronique, la réparation de vélos, la couture, tout est possible en fait. À partir de là, ces bénévoles vont nous aider à réparer notre matériel en panne. C'est gratuit, mais en contrepartie, on nous demande de participer, de mettre la main à la pâte en quelque sorte.
Et ça marche.
C'est plein à chaque fois. Il faut dire qu'ils ne sont pas ouverts tous les jours. Ça peut se dérouler un samedi tous les 15 jours, par exemple. Mmh. Alors, pour savoir les dates des prochains Repair Café près de chez vous, il suffit d'aller sur le site repaircafé.org. Une fois que vous avez la date, le lieu et les horaires, eh bien, tout simplement, vous venez avec l'objet en question, un seul par personne.
Faut pas abuser.
Voilà, vous prenez un numéro à l'accueil, puis vous attendez d'être appelé.
Le résultat ?
Eh bien, plus de la moitié des objets repartent en état de marche. Ouais. Alors, si dans certains cas, la réparation peut se faire sans problème sur place le jour même, on pense à une soudure par exemple, pour d'autres, il va falloir avoir recours à des pièces détachées. Et là, eh bien, il faudra les acheter et revenir avec pour que l'appareil puisse être réparé.
Qu'est-ce qui se passe justement si on ne peut pas réparer ?
Eh bien, vous n'avez pas tout perdu. Outre le café et les pâtisseries que vous pourrez prendre sur place.
Fais pas le voyage pour rien.
Non, dans une ambiance conviviale. Il arrive aussi que l'on vous indique précisément d'où vient le problème de votre appareil, c'est important. Et on peut vous dire aussi si ça vaut le coup d'engager la réparation par le service après-vente de la marque.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ces Repair Café, Dominique ?
De simples particuliers qui veulent prendre part à la lutte contre le gaspillage et le tout jetable. Là encore, c'est très simple pour fonder son Repair Café. Le mode d'emploi est sur le site repaircafé.org.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.